Rencontre littéraire, Václav Richter.
Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thunder ten Tronckh, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Ainsi Voltaire présente le héros de son conte philosophique le plus célèbre, qui n'en est pas moins une violente satire de la bêtise et de l'aveuglement humain, un roman d'aventure. Le conte Candide ou l'optimisme, écrit d'une plume acérée et avec une ironie corrosive, n'a jamais perdu de son originalité et de sa fraîcheur. Il attire depuis longtemps les hommes de théâtre et est souvent adapté pour la scène. Il a subjugué aussi le compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui a trouvé dans le texte de Voltaire de nombreux thèmes étonnamment présents dans la société américaine moderne. Le snobisme puritain, le faux moralisme, l'optimisme devenu idéologie, le sentiment de supériorité. Musicien, Bernstein a décidé de mettre le conte de Voltaire en musique. La gestation de ce projet a été longue, a connu de nombreuses péripéties et n'a été vraiment terminée que juste avant la mort du compositeur. Aujourd'hui, Candide de Bernstein est joué dans de nombreux théâtres et figure aussi dans le répertoire de l'Opéra d'État de Prague. Je me suis entretenu sur cette œuvre avec le chef d'orchestre Guillaume Tournière, qui a préparé et dirigé cette production dans la capitale tchèque. On dirait qu'un roman philosophique n'est pas un bon sujet pour un opéra. Pourtant, Leonard Bernstein a basé son opéra sur le roman de Voltaire. Comment a-t-il réussi un tel exploit? Quels moyens a-t-il utilisé?
L'exploit est vraiment très très impressionnant à mon goût, parce que je pense que la chose la plus difficile en musique est de rendre l'humour. Il y a très très peu de compositeurs qui s'y sont essayés et qui l'ont réussi. Alors il y a évidemment l'expérience de Rossinienne qui est évidente pour tout le monde, mais après ça les livrets se sont faits avec le romantisme, avec l'expressionnisme, les livrets se sont faits toujours plus dramatiques, aussi pour des raisons politiques et sociales. Mais je pense que quelques compositeurs au XXe siècle s'y sont essayés, évidemment Shostakovich avec Nos, évidemment Prokofiev avec Abruzzeni Monastiri, et qui sont des réussites absolues. Mais les autres, peut-être Poulenc aussi évidemment avec les Mamelles de Tirésias, mais peu de compositeurs y sont arrivés. Et il y a dans la musique de Bernstein, comme dans le livret de Voltaire, c'est très impressionnant de voir à quel point la musique est grinçante. Quand on parle de l'autodafé, cette caricature des procès du macartisme américain des années 60, quand on repense au fanatisme religieux avec l'Inquisition évidemment, mais tout ça est déguisé, tout cela grince, tout ça, on s'amuse beaucoup et on entend encore vraiment toute l'histoire de la musique derrière ce moment de rigolade.
Et justement, un des moyens utilisés par Voltaire est l'ironie. Est-ce qu'on peut traduire cette ironie en musique?
Oui, quand on est certainement aussi génial que l'était Bernstein, quand on entend le chant de Martine, par exemple, le philosophe qui grince, qui gémit, qui se moque de l'humanité, des grands mots, de la liberté, de l'humanité, de la gentillesse humaine. On entend vraiment, il s'est amusé au milieu de ses rires à utiliser, par exemple, le bruit de la crécelle, qui était l'instrument qui annonçait la peste et les grandes tragédies. Il y a beaucoup de détails quand on parle d'une valse vénitienne. Évidemment, il n'y a jamais eu de valse à Venise. On y entend des cloches de vache. Enfin, c'est vraiment si on regarde très en détail la partition, on voit que lui-même s'est beaucoup amusé à rire un peu de tout.
La critique ne s'accorde pas toujours en ce qui concerne le genre de cette œuvre de Bernstein. S'agit-il d'un opéra, d'une opérette, d'une comédie musicale? De quoi s'agit-il, en fait?
À mon goût, il s'agit un peu de tout à la fois, et c'est aussi un peu ce que a voulu le compositeur à ce moment-là. Je pense que quand il a voulu écrire de la musique très sérieuse, comme c'était le cas dans sa deuxième symphonie, Kaddish, il a montré à quel point il était l'héritier de la musique de Mahler. Quand il a voulu écrire une musique purement de divertissement, comme c'était le cas avec A Wonderful Town, il a su écrire mieux que n'importe quel compositeur de Broadway, la plus belle musique de Broadway, avec des orchestrations fantastiques, avec des saxophones, des trompettes, une section rythmique incroyable, des pianos qui sont très très brillants. Mais quand il s'est agi de prendre ce sujet qui apparemment est une satire, qui apparemment est fait pour rire et qui était destiné d'abord à Broadway, je pense qu'il s'est trouvé devant un des plus beaux livrets d'opéra qui existent. C'est mon opinion, mais je pense qu'elle est partagée par beaucoup d'autres critiques qui sont aussi peut-être sensibles à toutes ces influences. Mais je pense que il a écrit là volontairement un opéra qui est à cheval avec beaucoup de genres.
Sur quel aspect de l'œuvre de Bernstein avez-vous mis l'accent dans votre production?
Moi, je suis très sensible au discours qu'avait Bernstein sur la signification de la vie. Il a eu toujours cette préoccupation de par ses origines, de par son grand-père qui était rabbin, des préoccupations religieuses qu'il a eues. En fait, il a peut-être, de par cette culture, ces gènes qu'il avait, et vraiment les préoccupations qu'il devait avoir dans des discussions autour d'une table avec ses parents. Je pense que la question religieuse devait être très très importante, et évidemment la période qu'il a traversée, le siècle, les guerres, toutes les horreurs du fanatisme politique et religieux qu'on a pu constater malheureusement encore durant ce siècle, je pense qu'il l'a amené vraiment à avoir une réflexion très profonde quand il parlait des livrets, enfin ou plutôt de la substance musicale des symphonies de Mahler. Il avait compris mieux que personne ce que signifiait ce répertoire, et je pense que dans toute son œuvre, même dans vraiment son toute simple, dans son dernier cycle de mélodies, arias and barcaroles par exemple, qui sont écrits pour baryton et soprano, il y a toujours cette préoccupation sur la signification de la vie.
Est-ce que c'est donc aussi un message que vous et les autres artisans de cette production aimeriez traduire, aimeriez donner aux spectateurs?
Oui, ça je le crois très franchement. Et après, beaucoup de rire, beaucoup de grincements, beaucoup de choses. Il y a les trois derniers numéros musicaux qui sont la dernière réflexion de Candide lui-même, le dernier air de Candide sur la signification de son propre chemin de vie, cette philosophie du cœur, et puis après la philosophie vraiment de Voltaire. Donc sachons cultiver notre jardin, vraiment trouver la vérité de la vie en soi-même et pas dans les richesses, la gloire, le pouvoir. Je pense qu'il y a mis ce qu'il y avait de plus vrai dans sa vie.
Le chef d'orchestre Guillaume Tournière nous a présenté la production pragoise de Candide de Leonard Bernstein. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci à Jarka Fikrlova, réalisation technique, et à Pavel Kahoun, prise de son.